plaisir, au danger, au travail, j'ai toujours la première place.
La Bébelle Époque, Jean-Paul Belmondo en 9 épisodes par Laurent Delmas.
J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que vous détestez Perry.
J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Je suis pas spécialement beau, mais je suis un grand boxeur. Depuis cette manie des portes-robots, je suis obligé de changer de tête tous les jours.
Ici Bob Sinclair, j'écoute.
Pourquoi vous avez fait tout ça?
Parce que j'avais envie de le faire.
France Inter.
RTS, la première.
RFI.
RTBF, la première.
Radio-Canada.
L'essentiel, c'est que la vertu triomphe.
La Bébelle Époque.
Vous savez, souvent, des acteurs dans mon pays se mettent à faire de la politique. Et de... Bon, mais la vraie politique, nous, c'est de distraire les gens. C'est la plus belle mission d'acteur. C'est pas de dire, il faut voter à gauche, il faut voter à droite, il faut voter pour le roi, il faut voter... Non, d'abord, si je savais ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de chômage et plus de pauvreté, je ferais de la politique, je ne ferais pas l'acteur. Quand vous montez sur scène, c'est pour que les gens vous aiment, pour être honnête. Hein. Si vous disiez, non, moi, je m'en fous que les gens ne m'aiment pas ou je m'en fous de ne pas avoir de succès, c'est pas vrai. Parce qu'à ce moment-là, je jouerais devant ma glace. Je jouerai tous les soirs Othello et Ruy Blas et tout, et je m'adorerais, je me dirais, oh, ce que tu es bien, formidable. J'aime les applaudissements, j'ai pas honte de le dire, ça me fait beaucoup plus de bien que si vous me dites vous avez un Oscar ou je sais pas quoi. Ce qui fait du bien, c'est le public, et si après il vient me trouver pour me dire vous m'avez fait passer une très belle soirée, alors là c'est l'embellie, on est content.
La Bébelle Époque, Jean-Paul Belmondo, d'À bout de souffle à l'As des As, par Laurent Delmas.
Vous n'avez pas tout dit, Delmas.
La scène se déroule le 14 mai 1974 sur les marches du palais du Festival de Cannes. La star Belmondo essuie les colibés et les sifflets de la foule à la sortie de la projection du nouveau film d'Alain Resnais, Stavisky, dont il est à la fois la vedette et le producteur. Un véritable massacre, comme si on lui avait craché au visage, dira-t-il plus tard. Le film sera finalement vu par 1 million de spectateurs. Un succès pour Resnais, un échec pour Belmondo. Plus jamais ça, se promet alors l'acteur qui tourne définitivement ou presque la page du cinéma d'auteur pour se concentrer sur des films soigneusement calibrés et centrés uniquement sur lui. C'est le film d'Henri Verneuil, Peur sur la ville, qui donna le la de cette nouvelle tendance. Au programme, action, séduction et même humour, le cas échéant. Oubliez les malfrats mélancoliques de Jean-Pierre Melville, Claude Sautet ou Louis Malle, comme les amoureux transis chez Peter Brook ou François Truffaut. C'est une véritable machine de guerre cinématographique et commerciale qui se met alors en place, avec en son centre un homme de l'ombre et de communication, un complice redoutablement efficace, René Château. Une seule cible inlassablement visée et dorlotée, le grand public et ses millions d'entrées. Une seule détestation, les critiques de cinéma beaucoup trop critiques. Et les joutes verbales seront parfois violentes, avec en point d'orgue la polémique autour de l'As des As. Voyage dans l'univers d'un acteur-producteur qui n'a qu'une idée en tête, plaire au plus grand nombre encore et toujours, ou plutôt, comme il le disait lui,
allons-y, allons-y.
Au micro de Radio-Canada, en 2000, Belmondo était on ne peut plus clair. Un acteur doit distraire son public. Tout le reste est secondaire. De fait, quand on interroge des cinéastes d'aujourd'hui sur le phénomène Belmondo, tous s'accordent à décrire un cinéma et des films fondés sur la notoriété de l'acteur. Des souvenirs de jeunes spectateurs remontent à la mémoire, tout comme l'admiration devant un système parfaitement rodé. Les réalisateurs Cédric Clapiche et Michel Hazanavicius, par exemple, en firent l'expérience.
Parmi tous les acteurs avec qui j'ai travaillé, c'est certainement celui qui est plus une légende.
Ouais.
Et donc, il y avait vraiment cette notion-là, quand je l'ai rencontré, qui fait qu'on ne sait pas bien s'il existe en vrai ou pas. C'est-à-dire que ça quitte le degré de notoriété d'un acteur connu, c'est autre chose, c'est un degré supplémentaire. Ce n'est pas que la première fois que je l'ai rencontré, c'est à chaque fois que je le voyais, il y avait un côté irréel, quoi. Il y avait quelque chose qui faisait que c'était hors du commun. Il y a une fois où on marche sur les Champs-Élysées, je pense qu'on marche jusqu'à un taxi, donc on a dû marcher vraiment entre 50 et 100 mètres, et je vois l'émeute. C'est-à-dire que tout le monde se retourne. C'est-à-dire que les touristes se retournent, les enfants se retournent, les vieux se retournent, les gens de tous les âges, de tous les pays. Et c'est, enfin, j'ai jamais connu ça avec d'autres acteurs. C'est vraiment, il est connu par tout le monde. Et donc ça, ce genre de choses, ça fabrique quelque chose de particulier, avec en plus le fait que tout le monde, en le voyant, sourit. C'est-à-dire que directement, il y a le bonheur d'avoir rencontré Belmondo, quoi. Et ça, c'est vrai pour un enfant ou pour un vieillard. Enfin, c'est assez fou, quoi, qu'il fasse cet effet-là. L'autre anecdote qui est un peu la même chose, c'est que je me souviens, c'était en revenant de Tunisie, en revenant du tournage de Peut-être. On est dans l'avion. Et donc, c'est un avion de ligne. Et les gens, ils voient qu'il y a Belmondo dans l'avion. Et à un moment, il fait une sieste pendant le temps du voyage. Et il y a eu une queue de gens qui venaient le photographier pendant qu'il dormait, ce qui était à la fois un peu horrible et en même temps... Mais c'était juste fou, quoi. Il y a eu genre 15 personnes qui attendaient que celui de devant ait fini sa photo. C'est, voilà, c'était ça.
Moi, je fais partie d'une génération où Belmondo a toujours été là.
Michel Hazanavicius, réalisateur.
Belmondo, Johnny... Pour moi, ils étaient constitutifs de la France, quoi. Moi, je suis né à Paris, très proche des grands boulevards, qui étaient vraiment une espèce d'avenue, de grande avenue de cinéma et de théâtre, comme ça. Mais il y en avait vraiment... Dans mon souvenir, il y avait un cinéma tous les 25 mètres. Je me souviens très bien des affiches René Château. C'était toujours la même typo, Belmondo. J'étais fasciné par le fait que... Il avait même plus besoin d'écrire son nom en entier. Il y avait Belm et Nendo et on savait que c'était lui, son visage en grand au-dessus du titre et tout ça. Donc, c'était Belmondo, mais c'était aussi Lautner, c'était aussi Audiard. Il y avait un peu une marque Belmondo. Qui est d'ailleurs pas forcément la meilleure, mais, période de Belmondo. Mais c'était un truc qui était là, quoi, qui était présent, ouais.
L'universitaire Ginette Vincendo analyse en détail les caractéristiques d'un personnage absolument singulier au sein du cinéma français, avec quelques traits saillants et originaux qui permettent son identification immédiate.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une série de films avec des titres comme Le Marginal, Le Professionnel, Le Magnifique,
Le Solitaire,
L'As des As, enfin, etc. etc. Donc, qui montre bien plus que sont tous bâtis autour du personnage de Belmondo. Et ce sont des films où il est toujours hilar, avec ce sourire, souvent avec un gros cigare planté entre les dents. Et avec ce sourire et ce cigare, il va casser la gueule de plusieurs truands ou policiers, peu importe. Et en même temps, séduire toutes les femmes au passage. Voilà. Donc, on a... Voilà, le schéma qui, en fait, est répété d'un film à l'autre et qui, visiblement, plaisait au public. Alors, malheureusement, on n'a pas d'études, à ma connaissance, qui permettraient de dire quel était le pourcentage des hommes, le pourcentage des femmes. À mon avis, c'est quand même un public assez mélangé, en quelque sorte, qui a intériorisé cette vision... macho du personnage.
C'est ça la martingale du belmondisme, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est d'arriver à faire passer la pilule du machisme avec une sorte de
en s'amusant.
D'entrain, d'allant, de joyeuseté.
Oui, et il ne faut pas oublier aussi le dialogue de ces films, alors souvent Michel Audiard, mais pas nécessairement, et qui est quand même très drôle, avec des jeux de mots, avec de l'argot, etc. Et Belmondo a une manière de dire... Moi, alors, je crois que c'est dans Le Professionnel où il casse la figure d'un policier, il lui fait traverser une porte, et le policier atterrit dans un énorme plat de couscous avec des personnages arabes assis autour. Et Belmondo dit « Et voilà, un couscous poulet !» Et bon... Et lorsque j'ai essayé d'expliquer ça à des collègues qui ne parlent pas le français, ils ont du mal à suivre. Et voilà, Belmondo réussit, est un grand acteur comique finalement.
Dirigeant à la fois le Festival de Cannes et le Festival Lumière de Lyon, Thierry Frémaux fut amené à deux reprises au moins à rendre hommage à ce Belmondo Bébel, capable de drainer des foules immenses tout en parlant à des cinéphiles godardiens. Il revient pour nous sur ces moments où la profession et le public se rejoignent pour célébrer ensemble l'acteur. Sur La Croisette, comme dans La Ville des Frères Lumière, les mêmes mots reviennent pour dire et l'attachement et l'affection. Ce fut même l'occasion pour le réalisateur américain Quentin Tarantino de créer en français un néologisme qui parle désormais à tous, le belmondisme. Soit une attitude singulière et hors norme qui s'apparente plus à un état d'esprit qu'à une philosophie.
Jean-Paul finit par accepter. Et ça avait déclenché plein de choses formidables. Il était venu et c'était l'idée, il avait invité beaucoup d'amis. Et il avait carte blanche, si j'ose dire, c'était important pour lui. Il se montrait très peu en public à l'époque. Et donc, on décide de faire cet hommage à Jean-Paul. Et tout est prévu. Arriver sur les marches, etc. Et à ce moment-là, les agences photographiques demandent un rendez-vous à Gilles Jacob et moi. Et on se dit, merde, c'est qu'il doit y avoir un problème. Parce qu'en général, quand les agences se manifestent, c'est qu'il y a un problème. Et on les voit et ils nous disent, voilà, on veut vous prévenir. Nos photographes, à un moment, mettront leurs appareils au sol. Et lorsqu'ils l'ont fait, c'était toujours en signe de protestation. On dit, ah bon, mais pourquoi ? Il dit, parce qu'on veut pouvoir applaudir Jean-Paul Belmondo. L'inverse de ce à quoi on s'attendait. Et du coup, Jean-Paul arrive sur les marches, évidemment avec une certaine difficulté de marcher. Les photographes posent leurs appareils au sol. Et là, mais tout le monde applaudit. Et Patrick Fabre, qui était celui qui parle au micro pour le public, a la voix qui s'étrangle, se met quasiment à sangloter, ce qui fait que du coup, tout le monde était incroyablement ému. Et on a vu aussi ça, la force de cette trace, de ce souvenir, de ce qu'est un artiste, ce qu'il laisse. Jean-Paul tournait plus depuis quelques années. Donc, on est là en présence de quelqu'un que tout le monde a envie, et non pas de toucher, d'aduler. Il y avait quelque chose de remerciement, de gratitude. Et donc, ça a été un moment complètement fou.
Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière et délégué général du Festival de Cannes.
Jean-Paul, lui, par cette agilité intellectuelle, cette agilité artistique, a incarné cette double famille du cinéma français. Et donc, copie restaurée d'un Saint-Jean d'hiver, et Jean-Paul accepte de venir pour faire la soirée d'ouverture. Et la soirée d'ouverture se déroule à la Halle Tony Garnier, qui est une immense salle de concert pour le rock. Autrefois, c'était les abattoirs lyonnais. 5000 personnes. Et pour gagner son siège quand on arrive, bah, c'est long. Et là, tout à coup, Jean-Paul, je lui dis, bah, Jean-Paul, voilà, peut-être que... Non, non, je marche. Comment font les autres ? Je lui dis, bah, ils marchent. Et justement, comme ça, les gens les applaudissent. Les gens les voient arriver. Et bon, ah ben, moi, je fais comme les autres. Je lui dis, bah, la seule chose, c'est que c'est toi qui arriveras en dernier. Et à ce moment-là, on met la musique de Morricone, le professionnel. Et tous les artistes étaient déjà là. Il y avait Daniel Auteuil, il y avait Marielle, il y avait Rochefort, il y avait... Et Jean-Paul, qui, s'appuyant sur sa canne et seul, fait ce cheminement de plusieurs dizaines de mètres. Au son de la musique de Morricone, du professionnel, et là, tout le monde était debout, tout le monde était très très ému de vivre ce moment très solennel. C'était presque la plus belle de ces cascades. C'est-à-dire ce type qui se pendait au truc des hélicoptères, là, on faisait une dernière avec une béquille et il marchait. Et il marchait, et il marchait. Et au son de cette musique, ça a été inouï. Et il a regagné son siège. Et là, moi, comme organisateur, il y a un moment, il fallait que les gens arrêtent d'applaudir, quoi. Et Bertrand Tavernier était là. Et Quentin Tarantino. Tarantino, une semaine plus tard, recevait le prix Lumière, qui est remis à des metteurs en scène. Et quand, deux mois plus tôt, je lui dis... il me dit, alors, il y aura quoi dans le festival ? Je lui dis, bah, il y aura ça. Et à l'ouverture, il y a Jean-Paul Belmondo. Et lui, il était prévu qu'il vienne les 3-4 derniers jours du festival. Il me dit à l'ouverture, je dis oui. Il dit, bah, je viens. Je viens pour Jean-Paul Belmondo. Et une demi-heure avant que la cérémonie commence, on boit un petit verre avec Tarantino. Et je lui dis, dis donc, j'y pense, et pardon de ne pas te l'avoir proposé, mais tu dirais pas un mot ou deux ? Il me dit, oui, bien sûr. Et en effet, il a fait un hommage, un éloge à Jean-Paul, en anglais, depuis la salle. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça depuis la scène, parce que Jean-Paul ne pouvait pas monter sur scène. Donc on est allés tous dans la salle, donc c'est comme un ring, on était au milieu de la foule. Bertrand traduisait, et Tarantino a fait un éloge avec une faconde, une manière de dire Belmondo, et surtout en disant que le jeune Belmondo avait, sur les murs de sa chambre, un poster avec Humphrey Bogart, et que aujourd'hui les jeunes ont des posters avec Belmondo. Tarantino, à la volée, il a fait un discours très extraordinaire. Il n'avait pas besoin d'aller sur Wikipédia. Il savait quoi dire. Et il l'a dit d'une façon magnifique. En disant, Belmondo, c'est pas seulement un acteur, c'est pas seulement un comédien, un personnage, surtout que c'est un verbe.
Je te vois plus.
fut la partenaire de Belmondo dans Une chance sur deux, Vanessa Paradis et sa divine idylle.
France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio-Canada.
La Bébelle Époque, par Laurent Delmas.
À ce stade, et pour mieux plonger au cœur de la machine Belmondo, un retour en arrière s'impose malgré tout. Un retour sur cette autre affaire Stavisky, soit le moment où la star Belmondo décide en quelque sorte de devenir la superstar Bébel. Un moment de bascule décidé, assumé et même revendiqué par l'acteur. La cinéaste Rebecca Zlotowski jette son regard de cinéaste actuel sur cet événement singulier, tandis qu'une archive permet de donner la parole au réalisateur de Stavisky, Alain René.
Quand j'ai fait donc Stavisky, quand j'ai mis en scène Stavisky sur un scénario de Georges Semprin, il était coproducteur, mais je crois à une proportion genre de 90%. Et il a demandé à mon agent de me le cacher, de ne pas me le dire, parce qu'il disait « si c'est que je mets de l'argent dans le film, ça va le gêner et peut-être même il va refuser de le faire ». Et jusqu'aux, les 5 derniers jours, j'ai vraiment totalement ignoré qu'il avait une part de production, enfin qu'il était même presque le producteur en titre, quoi.
Ah oui, c'est étonnant. Ouais.
Et il y a 15 jours où je me suis douté de quelque chose, parce que dans une séance épique avec Gérard Depardieu, où ils étaient tous les deux devant la caméra, il y a eu des problèmes de texte. Ça, c'est vrai. Qui était se mélanger au fou rire, d'ailleurs, parce qu'on ne savait plus très bien si le texte n'était pas su ou si on riait trop en faisant la scène ou des choses comme ça. Et il a laissé échapper. Eh ben, voilà une séquence qui me coûte cher. Alors là, ça m'a...
Ça vous a mis la puce à l'oreille.
Puce à l'oreille. Mais c'était la dernière semaine, donc vraiment tout était joué, c'est le cas de le dire.
Dans Stavisky, ce qui est intéressant, c'est que on sent... Et puis, il n'y a aucun cynisme, je pense, évidemment, chez René. Il n'est pas du tout allé chercher Belmondo pour sa charge populaire. Pas du tout.
Rebecca Zlotowski, réalisatrice et scénariste.
C'est parce qu'il a vraiment cru qu'il allait faire ce film-là. Et en même temps, je trouve ça... c'est ce qui fait que le film est inoubliable. Et ce que fait Belmondo, c'est... On a vraiment l'impression qu'il est soliste de Vladimir Kosma au milieu d'un truc de Boulez, quoi. Et on se dit, oulala.
Ceci dit, il est producteur et il dira plus jamais ça.
Ben oui, mais parce que je pense qu'il est hyper triste quand le film n'a pas le succès au box-office escompté. Ça me le rend hyper sympathique à nouveau. Je crois que Belmondo, il a arrêté de faire des films d'auteur parce qu'il s'engageait trop dedans. Il devait se dire, mince, un film bon grand public qui se casse la gueule, bah c'est pas grave, on a essayé, on ne s'investit pas émotionnellement de la même manière. Alors que sur le Stavisky, il a dû se dire, oh là là, on a tout mis, on a ça, et puis ça marche pas, c'est trop douloureux, allez j'arrête, j'en ai marre.
À l'origine du projet Stavisky, il y avait l'agent de Belmondo, Gérard Lebovici, qui, en dirigeant Artmedia, la plus puissante agence artistique de France à l'époque, fait littéralement la pluie et le beau temps sur le cinéma hexagonal. Il a également fondé des éditions Champs Libres, qui publient notamment des écrits révolutionnaires et situationnistes. Bien des années plus tard, en 1995, au micro de France Culture, Belmondo est revenu sur ce partenaire unique en son genre.
Jean-Paul Belmondo. Alors, qu'est-ce qu'il avait de remarquable comme agent artistique, Gérard Lebovici?
Ben écoutez, il avait d'abord une grande intelligence, ça tout le monde le sait, puis il avait un pouvoir pour convaincre les gens assez formidable, parce que bon, on pouvait lui demander des choses extravagantes. Je voudrais dire par là, bon, moi j'envisageais vraiment pas d'être producteur, si vous voulez. Bon, j'étais un acteur qui marchait très bien, j'avais gagné très très bien ma vie, et bon, producteur, ça ne m'attirait pas du tout. Et un jour, Gérard m'a dit, mais si, je te jure que c'est l'avenir. Parce qu'à l'époque, les acteurs en France, en tout cas, ne se mettaient pas producteurs. Maintenant, presque tous les acteurs sont producteurs. Mais c'est quand même lui qui a été à la base de ça, hein, d'aller prendre les risques. Et alors, il m'a dit, bon, bah, fais-les une fois. Et je l'ai fait une fois avec Dr Popol de Claude Chabrol. Ça a été un succès, et après, je n'ai pu arrêter quoi, depuis à être producteur. Il savait aussi faire les rencontres inattendues. Par exemple, bon, moi, à l'époque, je jouais ou je sortais de Borsalino, ou je ne sais plus quoi, de me faire une rencontre avec Alain René, et qui a donné qu'on a fait Stavisky, que j'ai produit entièrement. Il a donné aussi des rencontres avec François Truffaut pour faire La Sirène du Mississippi. Si vous voulez, c'était faire des rencontres inattendues, finalement. Bon, c'est pas...
Casser un peu l'image.
Voilà, casser un peu l'image. Voilà. Et casser l'image dans les deux sens, finalement. C'est de convaincre aussi René de dire, bon, on va prendre un type populaire qui joue des héros, disons, à la Zorro, entre guillemets, si on veut, et puis moi, de me convaincre d'aller tourner avec René. Et ça, je crois que c'était une force. Et en ça, il était un... plus qu'un agent, finalement. Il était déjà un producteur. Donc, il est devenu... Il a fait son premier film comme producteur, finalement, c'est Les Morts Falous, c'est avec moi. Il est mort avant la sortie du film, quoi.
Cette idée que les acteurs doivent devenir coproducteurs de leurs films, qu'est-ce qui lui a fait penser à ça?
Bon, ça existait, évidemment, en Amérique, puisqu'il y avait des artistes associés. Mais en France, ça ne se faisait pas beaucoup. Ou alors, on disait à l'acteur, vous prenez sur les bénéfices. Bon, il n'y avait jamais de bénéfices et les acteurs ne voyaient jamais rien. Donc, lui, c'est sûr que ça allait contre ses idées, mais je crois qu'il était déjà plus agent, il pensait déjà à la production. Et donc, en plus, je crois qu'on avait des rapports vraiment d'amitié sincères, et je crois qu'il voyait aussi mon intérêt et y allait quand même. Bon, il avait, je ne vais pas vous dire que c'était un saint homme et qu'il ne touchait rien, il gagnait beaucoup de sous, hein, donc c'était de bonne guerre.
C'est en 1971 que Belmondo créa sa propre société de production de films, Cerito, pour défendre ses intérêts au sein d'un système économique puissant. Cerito, en hommage à sa grand-mère paternelle, Rosine Cerito. Rapidement, il associe à cette activité celui qui, depuis 1967, est son attaché de presse, René Chateau. En 1983, Michel Audiard, l'un des scénaristes attitrés de Belmondo, revient sur ses activités de producteur au micro d'André Asseo sur France Inter.
Disons, c'est pas de faire injure que de dire que mon ami Belmondo pense tout de même beaucoup à la rentabilité d'un film.
Belmondo, il est producteur, alors c'est normal qu'il y pense à la rentabilité.
Oui. Le successeur au fond de Gabin dans le Star System français, c'est Belmondo. Voilà, avec plus d'imbrication encore dans le Star System, puisqu'il est producteur, ce que ne voulait pas être Gabin, mais à mon avis, plus par crainte qu'autre chose. Il faut quand même être joueur pour être producteur. Et Jean ne voulait pas risquer de perdre. Voilà, c'est ça, il ne voulait pas risquer de perdre. On parle toujours des coups qui réussissent, hein, mais quand Belmondo fait Stavisky, qui perd un certain nombre de millions, personne pleure sur son sort. C'est quand même, il y a un jeu, il y a une loterie. Bon, une loterie de laquelle il sort gagnant 8 fois sur 10, c'est bien évident. Enfin, disons qu'il prend tout de même une petite part de risque, et ça, Gabin ne la prenait pas plus que Louis de Funès ne voulait la prendre, cette part de risque.
Pour justifier son entrée dans le monde de la production, comme Gabin notamment le fit dans son temps, Belmondo aimait expliquer qu'il avait voulu répondre ainsi à ceux qui lui reprochaient le montant de ses salaires, en ajoutant « Pour un producteur, même au prix que je demande, il est toujours intéressant d'avoir Belmondo, sans compter les risques financiers encourus, comme il l'expliquait au micro de Radio-Canada.
C'est que la vedette soigne beaucoup son image. Voyou, oui, mais voyou sympathique. Belmondo veut bien donner des frissons au public, mais il veut aussi garder son estime. Cette estime en a fait la valeur la plus sûre du cinéma français, et on peut croire que le film qu'il va tourner à Montréal attirera des millions de personnes. Le comédien est coproducteur de ses films depuis 13 ans. Il investit son salaire chaque fois qu'il tourne, ce qui rendrait un autre que lui plutôt nerveux.
Ça ira, je crois, quand on arrive à un certain niveau, il y a intérêt à être coproducteur, d'ailleurs, parce que je crois qu'un acteur donne son avis un peu sur tout, donc autant aussi être là financièrement. Et d'autre part, pour moi, personnellement, je pense... Je crois qu'il y a une honnêteté aussi à mettre mon salaire en jeu et à prendre des risques. C'est-à-dire, si le film ne marche pas, eh ben, tant pis. Et s'il marche, eh ben, on tire le loto, le gros lot. Donc ça fait partie de mon métier d'acteur.
Au centre du système Belmondo se trouve donc René Chateau. Au générique des films de Bébel, son nom apparaît à côté de la mention « publicité ». Mais l'ancien journaliste fait bien plus que cela. Coproducteur avec Belmondo, il gère d'une main de fer leur société commune. Avec une obsession unique, Belmondo doit occuper partout et toujours la première place, quitte à écraser la concurrence, au moins française, par exemple, en occupant le plus grand nombre d'écrans de cinéma disponibles à chaque sortie. En juin 1980, sur France 3, René Chateau expliquait sa stratégie en toute transparence.
René Chateau a des activités multiples. Il est propriétaire ou directeur, je ne sais pas.
Propriétaire.
Propriétaire de cinéma. Il dirige des collections de livres sur le cinéma et il s'occupe, alors ça c'est plutôt à lui de le dire, il s'occupe de Belmondo. Alors oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire s'occuper de Belmondo,
Non, je travaille directement avec Jean-Paul Belmondo dans sa maison de production, qui est Série Tout Film. Et nous avons créé, depuis Flic ou Voyou et Guignolo, une maison de distribution, qui est Série Tour René Château Distribution, qui est chargée avant tout de distribuer les films de Belmondo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je travaille sur le prochain Belmondo, qui sortira le 25 mars 81, mise en scène d'Yves Boisset, qui s'appellera Barracuda.
Et le problème, c'est vendre du Belmondo, alors?
Vendre du Belmondo, oui, c'est pas péjoratif dans la société où nous vivons, non.
Ça se vend bien d'ailleurs en général.
Ça se vend bien et nous essayons que ça se vende encore mieux et le mieux possible, c'est-à-dire que le film soit le mieux possible.
La stratégie Château ne laisse rien au hasard et surtout pas les titres des films ou bien encore la conception des affiches. Avec lui, Belmondo devient une marque à part entière, avec notamment une graphie particulière qui occupe toute la place. Le réalisateur, les autres acteurs, l'équipe technique et artistique passent au second plan. C'est unique en son genre, et pour tout dire, dans le monde entier. Même Clint Eastwood, à la même époque, et sur un créneau à certains égards comparable, n'existe pas de cette façon publicitaire. La communication, selon René Château, s'apparente à un rouleau compresseur que rien n'arrête. Comme il s'en expliquait encore bien des années plus tard, en 2013, sur France Culture.
Pour faire une bonne affiche, il faut un bon titre. Tous les titres des films de Jean-Paul, sauf L'As des As qui est de Houry, sauf Peur sur la ville qui est de Verneuil, je les ai tous changés. Tout ça, c'est déposé au CNC, c'est vérifiable. Quand Francis Weber il a amené le titre « Comment détruire la réputation du plus grand agent secret du monde » pour de Philippe de Broca, j'ai dit « C'est pas possible, on va crever avec un titre pareil. » Bon, mais en Italie, le film s'appelle comme ça. Il a fait un bide. Et moi, en France, je l'ai appelé « Le Magnifique », qui est le film préféré de Jean Dujardin.
Par exemple, l'inspecteur de la mer, c'est devenu Flic ou Voyou.
Ah oui, l'inspecteur de la mer avec un titre pareil, un homme en imperméable sous la pluie qui est sur les galets à Nice, toi, qui est au bord de la mer, c'est pas possible ça. Donc je l'ai appelé Flic ou Voyou. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Et pour l'affiche de Flic ou Voyou, j'ai pris une photo que j'avais faite sur Borsalino, sur le champ de course, où Belmondo, je l'avais trouvé un matin comme ça, c'était très tôt. Oh, j'ai dit, putain, il est formidable, la casquette, il avait la Picaduros. Qui n'était pas allumé, tu vois, mais il y avait le Picaduro, c'est tout. C'était un concentré de Belmondo. C'était vraiment une anthologie. J'ai dit, putain, ça, je prends. Je mets la photo de côté, et ça a été 5 ans après, ou 10 ans après, l'affiche de Flic ou Voyou. Mais elle vient de Borsalino.
Alors qu'il n'y a pas le Picaduro, c'est qu'il n'y a pas la casquette dans le film.
Exactement, ça a été une horreur, parce que le film se termine. J'ai dit à Lautner, je dis, mais il me faut une casquette, moi, dans le film, là. Et puis, ils n'avaient pas évidemment la même casquette, etc. Bon, ça tirait par les cheveux, mais tout le monde s'en fout. Une fois que le film marche et est un succès, et puis que les gens adorent, c'est pas important, quoi.
Je crois même que pour Flic et Voyou, vous aviez repris un petit peu la typographie de Force Ouvrière, hein, avec les...
Ah non, non, mais Flic ou Voyou, exactement, vous faites bien d'en parler. C'est ce que j'avais raconté à Télérama à l'époque. Quand ils ont fait leur une sur la PME Belmondo, c'est-à-dire que j'aimais bien, pas du tout les dirigeants, mais le graphisme de FO, je le trouve hyper bien dessiné, bien fait. Donc FO, c'est ce qui m'a fait trouver F, flic, O ou voyou.
Ce tournant pris avec les conseils avisés de son associé et alors ami René Château, Belmondo l'assume pleinement, y compris des années plus tard à la télévision face à Bernard Pivot dans Bouillon de culture en 1998.
Et vous êtes toujours dans le classement du journal du dimanche, toujours dans les 3 ou 4 premiers, donc parmi les Français préférés. Est-ce que vous ne vous êtes pas coupé du Belmondo qu'aimait l'intelligentsia, qu'aimait la critique, qui vous aimait dans Godard, dans Peter Brook, qui aimait, comment dire, l'acteur anti-conventionnel? Est-ce que vous n'êtes pas devenu, avec Bebel, un acteur conventionnel?
Je ne suis jamais coupé de personne, c'est eux qui vous coupent. Parce que tout d'un coup, bon, Léon Morin-Prêtre, ça ne marche pas, on vous trouve génial. La Sirène du Mississippi, ça ne marche pas, on vous trouve génial avec le temps. Et bon, si vous faites un film qui fait 1 million d'entrées, ils ne vous aiment pas. Ça,
ah non, vous y revenez, là, non. Là, c'est l'envie, là, on dirait que... Non,
mais non, mais si, mais vous comprenez pas ce que je veux dire. Je trouve ça normal, je vais vous dire, moi, justement.
Vous pensez que l'âme de l'homme est aussi noire, aussi?
Mais c'est pas noir.
Ah ben si.
C'est pas noir, parce que c'est pas grave, le cinéma, de toute façon, n'est pas une chose aussi importante et aussi grave. Un acteur s'est jamais suicidé sur une mauvaise critique, de toute façon. Donc c'est pas grave, ce qu'ils vont dire. Ils vont pas vous casser la carrière. Je m'exprime peut-être mal.
mal, mais je, ce que je veux
non,
dire...
Non, pas, non, non, c'est, très bien.
C'est pas nouveau, ça, quand même. Le, ouais. le succès, je ne suis pas le premier.
Ah oui,
je
ne
suis
sûr.
Pas une victime.
Non, hein, vous portez bien.
Je
ne
suis pas une victime, je porte très bien. Mm-hmm. Et avant moi, et Pagnol, vous avez lu ces trucs sur la critique. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, et Molière a écrit sa pièce. Donc, c'est ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas un débat. Et puis, ça existera toujours. On n'enlèvera pas les critiques. Et je ne demande pas ce qu'on enlève les critiques. Ça fait partie du métier, ça fait partie des choses. Mm-hmm. Quand on est jeune, c'est vrai qu'on les lit et qu'on regarde et on dit à son papa et à sa maman, t'as vu, j'ai eu une bonne critique. Mais à mon âge.
En 1982, une affaire avait fait grand bruit lors de la sortie de L'As des As de Gérard Oury. Elle interroge alors ce cinéma commercial hégémonique autant que la place et le rôle de la critique de cinéma. Comme on le rappelle sur France Inter dans l'émission Les Étoiles du cinéma, le film connaît dès sa sortie un succès considérable, cumulant à lui seul à Paris plus de 72 000 spectateurs. Un record absolu et titanesque face, par exemple, aux 3 000 entrées du nouveau film de Jacques Demy, Une chambre en ville. C'est alors que le critique et journaliste de cinéma, Michel Bouju, décide en réaction de publier avec d'autres un texte dénonçant les films préconçus pour les succès et déplorant un public potentiel détourné. Autrement dit, un appel à aller voir le Demy sans jamais citer nommément le film avec Belmondo comme contre-exemple.
Ah oui, ça a été un événement considérable. Je dois dire que on a toujours, pour les films français, le record du premier jour. À l'époque, on a fait, je crois, 73 000 entrées dans la journée, ce qui est une chose incroyable. D'ailleurs, avec Gérard, on était au Fouquet's, et quand on nous a dit ça, on a commencé par dire, non, vous voulez dire 7300 ? Non, non, 73 000. Alors, on est tombés tous les deux sur la banquette, et vraiment, on s'est embrassés, on avait les larmes aux yeux. Hein. Et on savait, si vous l'aurez été lucide, on s'est dit... Plus jamais ça se reproduira. Quoi.
Parce que et ça ne s'est plus jamais reproduit.
Et ça ne s'est plus jamais reproduit.
Aucun voilà. film, aucun ni film, français, voilà. ni américain.
Voilà. Ça a été une folie extraordinaire. Bon, Oury, Gérard, moi j'ai toujours eu une tendresse pour lui, parce que c'est un homme tellement drôle, cultivé, puis il adore les acteurs. Lui-même, il a été acteur, il est toujours plein d'anecdotes. On ne s'ennuie jamais une seconde avec Gérard. Hein.
Et comment vous expliquez le succès extraordinaire de L'As des As ?
C'est le talent de Gérard, hein, d'avoir mis cette espèce d'entraîneur de boxe des Jeux Olympiques avec ce petit Rachid Ferrat. Ces rapports entre l'enfant et le petit ours aussi, tout ça, je crois que c'était un amalgame.
Parce qu'il y a toujours le mélange de tendresse.
Oui, mélange de tendresse. Voilà, Oury, c'était pas un comique juste mécanique. Vous voyez, il y avait cette tendresse. Et je crois que c'est ça qui avait beaucoup touché les gens. C'était les rapports de ce personnage avec ce petit enfant au milieu de cette guerre, finalement. Enfin, de cette préparation
cette
de guerre.
Cette préparation de guerre.
Et je crois que c'est ça qui a plu aux gens. Hein.
Je n'irai pas par quatre chemins. Je pense qu'Une chambre en ville de Jacques Demy est un film proprement. Miraculeux.
Michel Bouju, critique et journaliste de cinéma.
C'est le cinéma de l'élégance et de la générosité. C'est-à-dire encore une denrée extrêmement rare par les temps qui courent sur nos écrans, que ce soit du cinéma français ou du cinéma américain. Et il s'est passé, inutile de dire, bon, voilà, c'est pour moi vraiment, évidemment, le plus grand film français de l'année, et j'irai même sans doute plus loin. Bon. Alors, inutile d'épiloguer là-dessus, il s'est passé, à propos de ce film, une chose qui me semble très importante et que je voudrais signaler, c'est qu'une chose qui ne s'est pas passée très souvent, c'est qu'un certain nombre de critiques, considérant, comme le disait Lefort, effectivement, qu'on ne servait plus à grand-chose et qu'on n'était pas très entendu, ont voulu grouper leurs voix et ont signé un petit texte collectif, une espèce de pétition. Moi, je ne suis pas vraiment un homme de pétition, mais cette fois, j'ai apporté ma signature à ce texte qui exprime l'admiration de ses critiques signataires pour le film de Jacques Demy. Avec la volonté, quand même un petit peu polémique, délibérément, d'opposer Une chambre en ville à L'As des As. Tout simplement parce que ces deux films sont sortis le même mercredi, c'était le jour de la grève à la RATP. Et le film de Gérard Oury, ce premier jour, ce premier mercredi, a fait 72 000 entrées, alors que le film de Jacques Demy en faisait 3100 et des poussières.
Oui, mais encore une fois, on n'a pas.
Bon, c'est un film qui me semble, encore une fois, extrêmement important, et surtout un film populaire. Alors c'est là le paradoxe, et c'est pour ça que nous avons fait ce petit texte, car un film populaire qui ne trouve pas son public, ça peut faire sourire, on se demande ce qui se passe.
Co-scénariste du film, avec son père, Gérard Oury et Marcel Julian, la cinéaste Danielle Thompson, à notre micro, se souvient encore de cette polémique autour de L'As des As. À l'époque, Gérard Oury avait écrit pour Jean-Paul Belmondo une cinglante réponse en forme de lettre ouverte aux critiques de cinéma.
On a tous envie d'avoir du succès, on n'est jamais sûr, donc ça ne s'agit pas de qualité, de comparaison.
Il s'agit juste d'avoir cette espèce d'élan du public ou pas. Et ça nous arrive à tous de tout à coup de ne pas l'avoir. Et on est, et puis il y a un autre film à côté qui marche. Hein, je veux dire, ça fait partie de nos vies. Et on est là, effectivement, à attendre le mercredi matin, les premières entrées au hall, les indications, puisque c'est les premières séances au hall. Et on attend au téléphone, ou alors on y va même caché dans un coin pour savoir si les gens viennent. Ça fait partie de notre métier. Bon, mais ce qui ne fait pas partie de notre métier, c'est que tout à coup, il y ait une espèce de cabale. Monumental, signé par un organisme entre guillemets qui n'existe pas, qui est la presse française,
la critique française.
La critique française, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas, il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont gentils. Enfin, je veux dire, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils veulent, mais de tout à coup signer ensemble un manifeste pour dire n'allez pas voir ce film parce que vous enlevez des spectateurs à l'autre film, c'est dément. Ils ont ressenti ça, Jean-Paul et mon père, comme une injustice et une incongruité. Enfin, c'était très désagréable moralement, parce que finalement, ça n'aura pas effectivement enlevé un spectateur, et malheureusement, ça n'en a pas rajouté un seul au film de Jacques Demy. Ouais. Donc, ça a été... Alors, il y a eu cette fameuse rédaction de cette lettre qui était signée par Jean-Paul, mais qui était en fait écrite par mon père, et avec évidemment l'accord de Jean-Paul, et donc... mais encore une fois, c'était toujours mieux d'avoir son nom à lui sur...
Lettre au coupeur de tête.
Hein, voilà, lettre au coupeur de tête. Ouais. Et voilà, mais c'est un très très curieux épisode qui ne s'est jamais reproduit. Ça n'avait pas eu lieu avant ni après. Et ils l'ont assez mal vécu. En même temps, l'énorme succès du film faisait qu'ils étaient quand même heureux.
La montagne magique de Thomas Mann, c'est combien?
Verboten. Interdit en Allemagne ce livret.
Et Zola, il est verboten aussi?
Bien, Zola, aussi verboten.
Brecht,
verboten.
Hemingway,
verboten.
Freud,
verboten.
Hitler,
verboten. Nein, das ist mein Kampf. Das ist mein Kampf.
Juif vous êtes?
Juif vous avez l'air.
Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début.
Was?
On dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con, vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français.
Vos papiers vérifiés. Puis-je, monsieur?
Vraiment en chier, vous me faites air commissaire.
Signataire à l'époque du texte des critiques de cinéma, le journaliste Serge Toubiana, ancien patron de la Cinémathèque et actuel dirigeant d'Unifrance, jette un œil apaisé sur ce moment d'embrasement où les deux camps, il faut désormais en convenir, manquèrent assurément de modération et de sagesse. Quant à Thierry Frémaux, sa religion est faite à propos de ce coup de sang. Mais la fracture reste encore aujourd'hui ouverte entre la critique cinéphile d'un côté et des films qui revendiquent le pur divertissement. Il n'est pas innocent que Belmondo ait été au centre de cette polémique, lui qui revendiquait ouvertement de faire un cinéma commercial.
À l'époque, les institutions et la critique, dont je faisais partie, j'étais un jeune critique, on voyait bien quand même... On n'aimait pas... On avait tort, hein, on voyait mal les choses, on n'était peut-être pas assez lucide, mais on voyait... On appréhendait Belmondo comme Delon, peut-être un peu différemment quand même, comme des acteurs du côté du manche, quoi.
Ouais.
Et on s'est trompé. On leur prêtait, je pense, des positions politiques qu'ils n'avaient pas.
C'est ce qui peut expliquer en partie la polémique au moment de la sortie de L'As des As.
Bon, j'étais assez ami avec Jacques Demy. Les deux films sortent en même temps, le même jour. Bon, L'As des As de Jean Haraway, avec Belmondo, coécrit avec Daniel Thompson, sa fille, et puis Une chambre en ville de Jacques Demy. Nous, au Cahier, on le défend. On défend Demy, parce que c'est un cinéaste qu'on a toujours défendu, et parce qu'on aime le film. Et tout d'un coup, ça part de je ne sais qui, dans le milieu de la critique et des amis de Demy, l'idée d'opposer l'un à l'autre, quoi. Et de le rendre public. La critique défend
une chambre en ville.
Pas tout pour Belmondo, voilà. Ouri.
Serge Toubiana, critique, ancien directeur de la Cinémathèque française.
En fait, L'As des As a pris tout le gâteau, quoi. cette polémique et cette pétition signée, je crois l'avoir signée, je ne me souviens plus.
Oui, vous l'avez signée.
Moi, je l'ai signée. Je revendique
d'avoir signé. Mais Demigny n'est pas du tout impliqué dans la pétition.
Hein. Absolument. Mais bon, comme il y avait des amis à lui, des proches, il était très emmerdé. Ça, je peux en témoigner, il était très emmerdé. D'abord parce que son film ne marchait pas. Il y a eu 3 succès sur 12 films. Il a réalisé 12 films, Jacques Demigny. Donc, amertume, tristesse, etc. Et là, Zézas cartonne, quoi. Mm. Pourquoi ? Parce que c'est Belmondo qui joue un personnage héroïque, que c'est Houry. Et donc, on s'engouffre là dans cette polémique et on fait du tort à Demi, parce qu'on le met au... On se l'approprie, on le rend prisonnier d'un discours critique qui n'est pas le sien. Lui, c'est un artiste, un cinéaste. Il a fait son film ne marche pas... C'est à lui de l'assumer, mais c'est pas et on ne le sauve pas, Et on attaque un film qui marche, c'est-à-dire qu'on attaque au fond le public, quoi. Et on attaque un acteur populaire. Et évidemment, Houry et Belmondo ont répondu en attaquant les coupeurs de tête. Nous étions des coupeurs de tête. Moi, aujourd'hui, avec le recul, parce que depuis, il s'est passé beaucoup de choses, c'était il y a 40 ans...
Vous ne le feriez pas. Non. Vous ne signeriez pas un texte pour Clément Cogitor contre Astérix.
Non.
Voilà. Non. C'est à peu près...
Non, parce que je crois que le public fait ce qu'il veut, il est libre. Les films sortent librement, avec des moyens différents. Les grands succès populaires français ou américains font marcher l'ensemble de la machine française de production. Donc, les films d'auteur bénéficient de l'argent prélevé sur les recettes de ces grands films populaires. Et puis, le public tranche, quoi.
D'abord, il y avait, en France, une opposition à la fois technique et économique entre cinéma d'auteur et cinéma grand public.
Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière et délégué général du Festival de Cannes.
Opposition qui s'exacerbait et écart qui se creusait. Et Belmondo, période Belmondo, René Château, Gérard Houry ou Georges Lautner ou Jacques Deray, etc. Les films de Belmondo, ça prenait tout. Donc il y a eu un réflexe, un double réflexe de la part de la presse, à la fois de dire quand même, essayons de résorber cet écart. Et puis le film de Jacques Demy marchait pas très bien. Donc il y avait aussi, mais je ne crois pas qu'un film marche pas bien parce qu'un autre marche bien. C'est même le contraire. Ça incite les gens à retourner au cinéma, ça parle le cinéma. Et Jean-Paul avait été blessé de ça. Il avait été blessé d'abord parce qu'il avait quand même bien donné dans le genre cinéma d'auteur qui marche pas dans sa jeunesse. Et puis, il se sentait accusé de quelque chose dont il sentait que ça n'était pas juste. Et d'ailleurs, c'était une polémique qui a pas duré parce que c'était absurde. Après, il faudrait reprendre tout ça parce que c'est sûr qu'il y a eu là 2 cinémas qui arrivaient un peu au bout de leur, de leur route. Mais là, il y a eu quelque chose au cœur des années 80 qui disait bien la décennie dans laquelle on entrait. Peut-être par épuisement d'une certaine recette. Et puis, épuisement artistique.
France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio-Canada. La Bébelle Époque. Par Laurent Delmas.
Les années Belmondo d'abord, les années Bébel ensuite, et l'effacement des premières au service des secondes. Or, la réalité est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Le temps passant, il y aurait la possibilité d'en faire la synthèse au nom d'une cinéphilie qui serait à la fois lucide et enthousiaste. C'est du moins ce qui ressort du sentiment exprimé par Serge Toubiala.
Pour moi, c'est très important de ne pas trahir cet engouement qu'on a eu pour... Dieu sait si après j'ai été un peu déçu par la carrière de Belmondo. Quand il ne fait que des flics ou voyous, il y en a des bons, mais il y en a beaucoup de pas bons. Et puis surtout, il change, il devient presque un stéréotype d'acteur et de la façon de jouer. Puis il occupe trop l'écran, enfin, il est le patron du film. Hein, bon. Mais chaque fois, je me suis dit, mais n'oublie pas que c'est grâce à lui que tu as aimé le cinéma. Donc. Puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer 2 ou 3 fois, adorable, gentil, souriant, un homme exquis, quoi. Il venait à la Cinémathèque, on lui avait montré justement Pierrot le Fou restauré, il est resté jusqu'au bout. Moi, j'étais très fier de revoir ce film qui a déclenché ma cinéphilie à la Cinémathèque, à l'époque où je la dirigeais. Film restauré, il était là, il s'est levé, la salle lui a fait un triomphe, quoi. Donc la cinéphilie d'aujourd'hui reconnaît en Belmondo ce qu'on lui doit, quoi. Ce qu'on doit à quelqu'un qui a incarné comme ça la poésie, la modernité, la liberté, l'insolence. Une façon de ne aristocratique, je dirais, de ne pas montrer le travail de l'acteur. Il n'y a pas d'effort, quoi. Chez lui, on ne voit pas le travail, non. Quoi. Il le cache bien, et puis il donne le sentiment de bien correspondre à ce que l'auteur, qu'on ne connaît pas, que ce soit Chabrol, Godard ou Truffaut, ou Louis Malle, Le voleur, qui est un très beau film, l'acteur porte bien, quoi, le récit, l'image, l'histoire qu'on nous raconte, quoi.
Il est après tout normal que les derniers mots reviennent à Belmondo. D'abord quand il exprimait son absence de lassitude. Ensuite, quand, même frappé durement par la maladie, il revendiquait l'héritage maternel du courage comme une valeur cardinale et constante. Le sourire de l'insolente réussite aux lèvres, jusqu'au bout.
Oh ben c'est heureusement, je ne suis pas blasé. Je crois que le jour où je serai blasé, je m'en irai carrément. Il vaut mieux jouer les rôles que je joue que d'ouvrir la porte. Je crois que je serais fatigué si j'ouvrais toujours la porte à mon âge. C'est ça qui est dur. Je dirais, je dis pas ça méchamment. Je pense que le métier d'acteur est très dur quand on ne joue pas des rôles intéressants. Et ce que je peux attendre, ben c'est, mon Dieu, d'avoir des films encore meilleurs. Et puis, moi, d'essayer d'être mieux. Je crois que c'est pas moi qui avais dit ça. Je crois que c'était Michel Simon. Un jour, j'avais entendu une interview où il disait que il n'avait pas fait la carrière qu'il aurait voulu, mais je trouve que sa carrière était très très belle. Alors donc, vous voyez, je crois qu'on n'est jamais arrivé jusqu'au bout. On peut espérer toujours. Vous voyez, j'ai un père qui est sculpteur, et à son âge, il travaille tout le temps, il fait toujours des recherches, des croquis. Je crois qu'un acteur, c'est pareil, on cherche toujours à s'améliorer de film en film.
Ces films que vous avez vus ont pu se faire grâce à ma mère, qui, tout jeune, quand je allais au théâtre, tout le monde trouvait que j'avais une sale gueule. Alors, une fois ça va, deux fois ça va, trois fois, non. Alors ma mère m'a dit, tu dois être content. Ton père avoir du courage. Et je n'ai jamais manqué de courage, ce qui fait que je suis là. Oui. Voilà.
C'est Marion Philippe qui a préparé cette série et c'est Stéphane Ronxin qui la réalise aujourd'hui avec à ses côtés Benjamin Troncin. Ce sont des professionnels et vraiment pas des guignolos. Prochain épisode, le Bébel, une langue à part.